Professeur Pierre Magnard, bonjour.
Bonjour, Eric.
Vous écrivez dans Question à l'humanisme, l'homme se valorise à mesure qu'il déchoit. Tant qu'il exista, il eut des devoirs. Maintenant, il n'a plus que des droits. Bien plus, ceci multiplie à mesure qu'il se fait plus précaire. Ses devoirs le grandissaient. La revendication de ses droits accuse son impuissance à s'élever. Celui que Nietzsche appelait le dernier des hommes ne vit que dans la revendication de prérogatives juridiques, politiques, sociales, éthiques, faute de quoi il disparaît. Et vous concluez que de mépris de soi ne faut-il pas pour subsister en dépit d'une telle laideur. C'est dramatique comme phrase.
C'est dramatique, mais c'est Nietzsche qui m'assure cela quand dans son Zarathoustra, il évoque le dernier des hommes, celui qui ne cesse de s'amenuiser. Car, revenant de la montagne, le prophète s'étonne que tout est devenu plus petit. Les maisons, l'architecture, les routes, mais aussi les êtres humains. Et c'est cette nanification qui lui semble traduire l'état des choses actuelles. Que dirait-il aujourd'hui ?
Vous continuez même dans cette voie en disant « L'homme pense son humanité à partir des menaces qui pèsent sur sa nature, voire même à partir de sa disparition en tant qu'espèce. » Et vous vous interrogez « La notion d'homme ne serait-elle que le sursaut d'une dignité défunte ?»
Je crains que l'humanisme n'ait d'autre ressort aujourd'hui. Le sursaut d'une dignité défunte, donc une pure et simple protestation, sans que rien ne l'honore, en fait, de réalisation ou d'affirmation concrète.
Pierre Magnard, nous allons rejoindre, non pas Nietzsche, mais un génie, qui est l'un de vos amis, qui s'appelle Robert Levin, qui a enregistré le clavier bien tempéré il y a à peu près 30 ans, sur différents instruments. Donc il y a l'orgue, le clavecin. Et nous allons écouter un extrait d'une partie où l'interprète le premier livre du clavier bien tempéré au clavecin. Le clavier bien tempéré, livre 1, Robert Levin au clavecin, un grand ami d'amitié récente.
Récente sans doute, il y a 3 ans que je le connais, mais cela ne fait rien à l'affaire. Quand on se reconnaît, on s'est toujours connu.
J'ai intercepté lors de l'une de vos conférences une petite aparté qui est passée inaperçue, mais pas pour moi. Vous dites « Dieu a vu trop grand pour moi, il ne m'a pas permis de m'installer sur terre et m'a contraint de regarder vers le ciel ». J'ai essayé de comprendre, mais surtout, je crains d'avoir compris. Est-ce que vous pourriez commenter cette phrase ?
Mon paradis, c'était de retrouver ce rapport à la terre profonde. C'était de développer ce sens de la terre. Pourquoi ? Parce que le sens de la terre, c'était le sens du sens. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Sens, sentir, assentir, consentir. Tout ça, c'est la même chose. Et cela constitue notre adhésion à des racines, à un socle, à un support dont nous le réclamons. Or, si toute ma vie se terminait à ce terroir ardéchois, il est sûr que le jour où une maladie cruelle m'enleva mon épouse, qui constituait tout mon enracinement sur Terre. Je me mis à douter de ce qu'avait été l'investissement d'une vie. Et c'est cela qui me fait dire que j'ai dû relever mon regard de la terre vers le ciel. Le ciel, c'est ce qui nous reste quand on a perdu la terre. Mais à ce ciel, je demande qu'il me rende la terre, car c'est à cette terre que j'aspire, et c'est elle que je voudrais retrouver. Le sens du sens, c'est le sens de la terre. Car en effet, si plus rien n'a de sens, ou si toutes choses deviennent insignifiantes pour nos contemporains, l'histoire, la politique, la vie, tout cela semble se vider de son sens. On ne retrouvera le sens, précisément, qu'à travers cette réactivation du sentir qui ne peut s'effectuer naturellement que par les cinq sens retrouvant leur synergie dans une sorte d'adhésion à cette terre. Quand je vois mon ancien condisciple, Michel Foucault, célébrer l'homme hors sol, comme il disait, d'une expression qu'il avait reprise de Gilles Deleuze, je ne puis qu'être frappé d'épouvante. Est-ce à cela que l'on s'achemine, une humanité de personnes déplacées, transplantées, éternels migrants, en quête d'une terre à laquelle ils ne parviennent jamais? Mais c'est la pire des damnations. Et c'est pourquoi ce que j'essaie de retrouver dans le ciel, c'est qu'il me ramène à la terre et me redécouvre l'expérience de l'ancêtre, chevalier laboureur en Dauphiné, ouvrant le premier sillon de son emblavure par cette marche à l'étoile qui guidait sa charrue.
Est-ce que la foi dont vous parlez doit s'alimenter du doute ou pas ? Est-ce que ce doute est une aide ou est-ce que c'est une contrainte ? À quoi correspond ce doute ?
Je dirais que la foi est une manière d'habiter l'inconnu et d'habiter l'inconnaissable. C'est-à-dire que sur le donné de la foi, je ne fais pas d'hypothèse, je le reçois et je l'admets. Mais parce que c'est une façon d'habiter l'inconnu, je ne vais pas essayer de connaître ce qui ne saurait donner objet de connaissance.
Professeur Magnard, nous allons écouter un extrait des Suites anglaises de Jean-Sébastien Bach par Robert Levin, où là, où nous sommes dans le mystère à l'état pur.
Thank you.
extrait des Suites anglaises par notre ami Robert Levin. Je refais référence à votre ouvrage « Questions à l'humanisme ». Vous citez quatre vecteurs qui permettent l'humanisation, la spiritualité égyptienne, la sagesse hellénique, l'ordre romain et l'eschatologie chrétienne. Est-ce que vous pourriez développer la signification de ces quatre vecteurs? Et pourquoi, si on en enlève un, quelque chose devrait s'écrouler?
Eh bien, il y a une continuité entre ces trois grands moments de la civilisation. Car en effet, à l'Égypte, on doit la découverte ou l'affirmation du monothéisme. L'un seul suffit. C'est une vérité que reprendra la haute tradition grecque à travers Parménide, mais c'est d'abord l'affirmation sans cesse répétée de toute la tradition égyptienne. La Grèce, elle est le moment obligé, si l'on peut dire, ce qui élève pour la première fois, si je puis dire, l'homme à hauteur d'homme. C'est la première réflexion, mais aussi la première pratique qui met l'homme debout à travers le socratisme et le platonisme. Que l'ordre romain se soit emparé de cela pour le porter aux limites du limès, c'est-à-dire du monde civilisé, confère à Rome une place éminente dans cette affirmation de l'homme, mais c'est évidemment le Moyen-Âge chrétien qui va donner toute son envergure à cette affirmation, car quelle est l'affirmation majeure de ce Moyen-Âge? Elle tient à une analogie entre microcosme et macrocosme, et tout le débat de l'Occident chrétien sera celui de savoir dans quel sens prendre cette analogie. Est-ce que cela veut dire que l'homme est conformé à l'univers dont il reproduirait à son échelle les proportions? C'est la première lecture de l'analogie. Mais on assiste au fil du Moyen-Âge à un renversement de cette analogie où le grand monde, ce n'est plus l'univers, mais l'homme lui-même.
Ce Moyen-Âge chrétien dont vous parlez, n'a-t-il pas été à un moment de votre vie un sujet de complication?
Au contraire, c'est ce Moyen-Âge chrétien qui m'a apporté la solution. Car en effet, si je renverse le module et si je fais de l'homme le grand monde sur le mode duquel doit se conformer l'univers lui-même, qu'est-ce que je veux dire par là? Je mets en œuvre l'essentiel du dogme chrétien. Car en effet, cet homme universel, c'est le christianisme qui le révèle en la personne du Christ.
En parlant de tout ceci, on va revenir à Bach. J'aimerais savoir quelle est la place d'un tel compositeur dans votre vie, si dans votre quotidien, vous écoutez beaucoup de musique, professeur Magnard.
Eh bien, je vous répondrai par un petit fait qui date d'il y a un mois. Une de mes relations, je ne peux pas dire que ce soit un ami, mais je l'ai croisé plusieurs fois, un grand spirituel doublé d'un grand musicien, le pasteur Joly m'a adressé son Jean-Sébastien Bach pour tous les jours de l'année. Puis, non loin de là, un autre petit livre sur « Prions avec Bach ». Oh, c'était il y a plusieurs mois, puisque c'était au début du carême. Et j'ai fait de cette lecture, de ces deux livres, disons ma méditation de carême, et je trouve qu'il y avait un ajustement parfait de cette musique qui, au profane que je suis, pas toujours très pieux, apportait la possibilité d'une prière quotidienne parfaitement suivie.
Alors nous allons retrouver le clavier bien tempéré avec Robert Levin. Le clavier bien tempéré, début du premier livre, interprété par Robert Levin. On a beaucoup parlé de votre parcours, de la philosophie, de votre pensée, mais il y a quelque chose qui est pour moi fondamental et qui dépasse tout ça, c'est la parole. Et vous dites, on garde la parole que l'on a reçue, et c'est cette garde qui en assume le caractère sacré. La parole est le seul engagement qui oblige. Ça, c'est la vérité, c'est la grande vérité. Et c'est quelque chose qui est plus fort que la pensée. La parole, qu'est-ce que la parole et qu'est devenue la parole?
Je crains fort que la parole n'ait été très souvent galvaudée. C'est la chose la plus sacrée et en même temps la plus fragile. Nous recevons la parole et nous prenons la parole pour la donner à notre tour. Autrement dit, la parole, c'est le souffle de l'esprit. La parole, c'est l'agent de la communion. Et c'est pourquoi il est redoutable d'être, du fait de fonctions universitaires, un ministre laïque de la parole. Car c'est bien ce que nous sommes. Et nous ne devons pas reculer devant les exigences d'un tel ministère. Je l'ai toujours considéré ainsi. C'est-à-dire que, dès le premier jour en 1956 au lycée Banville-le-Moulin, quand je suis monté sur mon estrade, ce fut avec crainte et tremblement. Et jamais je ne me suis départi de ce sentiment de crainte et de tremblement. Car c'est quelque chose de grave que la parole. Et c'est pourquoi j'ai eu tant de répugnance pour le cabotinage qui tenait lieu de vertu à tant d'enseignants de ma génération. Ceux que j'ai appelés les voleurs d'étoiles. Parce que ils ont volé à leurs élèves ces étoiles qu'ils auraient dû lui révéler, en se prenant eux-mêmes pour les étoiles et en essayant précisément de faire carrière médiatique à travers un enseignement usurpé.
Professeur Manière, je lisais un ouvrage d'un frère cartusien, l'ordre des cartusiens qui vient de la Chartreuse, alors ce sont des apôtres du silence, et qui écrit « La parole devrait entraîner une dette ineffaçable ». Ça correspond et ça résume toute votre pensée.
Oui, oui, mais vous parliez des chartreux. La parole, si elle ne s'ouvre pas au silence, est une parole vaine. La parole, elle est, au fond, une médiation, un truchement qui nous conduit au silence. Elle aboutit au silence. Et aussi, elle trouve dans le silence son origine. La semaine dernière, nous nous interrogions sur, précisément, ce rapport d'Albéric Magnard avec l'originaire. L'originaire, c'est précisément ce silence, d'où naît la parole et auquel elle doit faire retour. Ce silence originaire, parce que c'est de là que sourd la vie, comme l'eau d'une source profonde.
Professeur Magnard, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette série de 3 entretiens. Nous allons nous quitter avec une messe de Mozart qui a été finie d'être composée, achevée par notre ami Robert Levin.